Bonjour à tous. Alors juste peut-être pour continuer sur un peu les détails techniques, j'étais à l'ordinateur tout à l'heure. N'hésitez pas, s'il y a des personnes sur Zoom, à envoyer un message dans le chat pour dire s'il faut ajuster quelque chose. Et pour l'enregistrement de la prédication, bien vérifier que le micro USB est bien sélectionné. Merci beaucoup Sophie pour ces paroles que tu as partagées à propos de croire et voir. C'est vrai que c'est Dieu qui se révèle et c'est par la foi que nous voyons, que nous marchons. Alors selon, j'ai regardé un peu quelques sondages qui m'intéressaient cette semaine quand je réfléchissais à ma prédication. Selon Médiamétrie, alors ils font des sondages pour savoir qui regarde quoi à la télé. Selon Médiamétrie, les Français cette semaine auront passé en moyenne 24h30 de leur temps devant la télé en raison d'environ 3h30 par jour. Alors c'est une moyenne qui ne prend pas en compte le temps passé sur les autres types d'écrans comme les tablettes ou les smartphones. Et selon un chercheur en neurosciences, interrogé par France Info, compte tenu de ce temps passé devant la télé, ajouté à d'autres informations, eh bien en une semaine, les Français auront donc été exposés à environ 2450 publicités. Sachant qu'une publicité ne se limite pas aux spots publicitaires télévisés, mais aussi à tout ce qui est vu dans la presse, à la radio, au cinéma, sur YouTube, sur l'affichage d'un bus qui passe, etc. Et si l'on compte l'exposition aux marques, ce chercheur estime à 15 000 expositions par jour, en moyenne. C'est une moyenne. Et c'est vrai que ce chiffre est étonnant, 15 000 expositions aux marques par jour. Mais en fait, il ne parle pas seulement des publicités, il parle de ce qu'il appelle les stimuli commerciaux. Par exemple, lorsque vous croisez quelqu'un avec un t-shirt Nike, avec donc le logo Nike, eh bien, il le compte comme un stimuli commercial. Lorsque vous regardez un film où on utilise un ordinateur Apple, il le compte comme un stimuli commercial. Donc 15 000 expositions, c'est une moyenne. À mon avis, les gens de la campagne, un peu comme nous, sont moins exposés, mais il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri. Alors que j'étais en train de réfléchir à cette intro pour ma prédication, je regardais juste autour de moi et je vois le logo Canon sur mon imprimante à ma gauche. Je vois une ramette de papier avec le logo Intermarché. Je vois un carton avec le logo Pampers parce que c'est dans ce carton que je range mes cartouches d'imprimante. Je vois une crème de la marque Uriage sur le bureau. Je vois la boîte de mes lunettes avec le logo de l'opticien. Je vois la marque de mon ordinateur juste en face de moi. Je vois le logo de la maison d'édition où est édité le livre qui est posé sur mon bureau, etc., etc. Nous sommes entourés de messages marketing. Et le message qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'en achetant telle ou telle marque, nous aurons plus de confort. Nous aurons, par exemple, une meilleure imprimante, une meilleure qualité de vie, des meilleures couches, des couches de meilleure qualité, et notre vie sera donc meilleure. Aucune publicité nous dira qu'en achetant leur marque, notre vie sera parsemée d'épreuves et de difficultés. Aucune publicité ne nous dit qu'en achetant leur marque, nous serons détestés. Nous sommes entourés de messages publicitaires. Et lorsque nous témoignons de notre foi, nous sommes peut-être tentés de présenter la foi chrétienne comme une publicité. Et ce serait plus facile de dire en effet qu'avec Jésus, notre vie deviendrait plus confortable, plus paisible, plus facile. Nous aurions envie de dire que Dieu est tellement cool qu'il approuve tous nos choix pourvu que nous nous sentons bien. Est-ce vraiment ainsi que nous devons présenter la foi chrétienne? Comment Jésus parle ? Comment Jésus parle-t-il de la vie de disciple ? C'est ce que je vous propose de voir maintenant dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, versets 11 à 19. C'est le texte qui est proposé par notre union d'église pour la campagne de cette rentrée. Campagne à propos d'être tous témoins. Jean 17, versets 11 à 19. Les paroles que Jésus prononce ici font partie d'une longue prière, une prière qui précède son arrestation et sa crucifixion. Dans cette prière, il prie pour ses disciples, il annonce son départ vers Dieu le Père, il annonce l'envoi du Saint-Esprit qui continuera d'accompagner les disciples en son absence. Et voici ce qu'il dit vers la fin de sa prière. Jean 17, 11 à 19. Désormais, je ne suis plus dans ce monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et là, il s'agit de Judas. Verset 13. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Dans cette prière, Jésus annonce son départ, notamment au verset 11, « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que moi, je vais vers toi. » Jésus s'en va, mais ses disciples restent. Et ce sont eux qui continueront sa mission. Mais avant de parler de mission, Jésus demande à Dieu de garder ses disciples en son nom. Il lui demande de les consacrer. C'est la première chose que j'aimerais relever dans ce texte. Consacrer comme Jésus. Tout comme Jésus a été consacré, il demande à Dieu de consacrer ses disciples. Consacrer quelqu'un, c'est le mettre à part en vue d'un objectif particulier. Je prends un exemple. Quand on dit par exemple qu'une personne s'est consacrée à son métier toute sa vie, cela veut dire qu'il a tout donné pour son travail. Même lorsqu'il était en vacances, sa pensée était au travail. Jésus souhaite que nous soyons consacrés à Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons démissionner ou ne devons pas faire autre chose, mais cela veut dire qu'il veut que nous soyons entièrement donnés à Dieu. Et il exprime de plusieurs manières dans sa prière. Cela nous aide à mieux comprendre ce qu'il veut dire par là. Tout d'abord, au verset 11, il fait cette demande au Père, « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et ici, c'est la seule fois dans tout l'Évangile selon Jean que le Père est appelé Père Saint. La sainteté, c'est la pureté de Dieu, c'est sa perfection, c'est sa luminosité. Jésus parle de son Père comme étant le Père Saint, certainement pour dire que c'est à lui que nous devrions ressembler. Il est l'exemple parfait. Lorsque ses disciples sont consacrés, eh bien ça veut dire qu'ils doivent ressembler au Père, à Dieu le Père. Jésus demande au Père Saint de garder ses disciples en son nom, c'est-à-dire dans son nom. Le nom de Dieu, c'est une expression qui fait référence à Dieu lui-même, à sa nature divine. Jésus souhaite que ses disciples soient gardés auprès de Dieu et en Dieu. Il souhaite donc qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu. À la fin du verset, il termine en disant « afin qu'ils soient un comme nous ». Jésus souhaite que ses disciples soient unis à lui et donc à Dieu. Cela nous rappelle le texte de la prédication de Joachim la semaine dernière, où Jésus affirme qu'il est le cep, le pied de vigne, et nous, nous sommes les sarments, les branches rattachées au pied de vigne. Lorsque nous sommes attachés au cep, la sève coule en nous et nous portons du fruit. C'est de cette unité que Jésus parle. L'attachement à Jésus nous permet d'être attachés à Dieu, d'être consacrés à Dieu. Jésus dit au verset 12 que pendant qu'il était sur terre, il s'est efforcé de garder ses disciples dans le nom du Père. Maintenant, il s'en va. Il demande à Dieu de continuer de les garder. Concrètement, au verset 15, il demande ceci au Père. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Le mot « mal » dans le texte grec peut faire aussi référence au malin, au diable. Et selon les spécialistes, c'est plutôt au malin que Jésus fait référence. Il me semble que les deux traductions peuvent être prises en compte, mais plutôt penser au malin. Bien le mal est bien présent dans le cœur de l'homme, et le malin essaye de nous détourner de Dieu. Le diable est malin. Il ne faut pas croire qu'il agit toujours de manière directe. Il peut aussi agir de manière détournée. Il ne va peut-être pas nous dire « abandonne Jésus », mais il va plutôt nous dire « continue à croire en Jésus si tu veux ». Mais par exemple, regarde dans l'église tout ce qui ne va pas. Regarde telle personne, tellement elle est agaçante. Et si tu n'avais pas besoin des autres chrétiens ? Tu n'es pas obligé d'avoir des relations avec eux. Le malin est malin. Son but, c'est de nous éloigner de Dieu et de diviser l'Église, parfois, et je pense souvent, par des méthodes détournées. Lorsque mes enfants jouent avec un objet dangereux, par exemple, quelque chose qu'ils trouvent parfois dans le jardin, une branche d'acacia bien épineuse et pointue, une manière de les éloigner du danger, parce que voilà, des fois, ils tapent l'autre avec le bâton, soit ils caressent le bâton, mais d'une manière bien, bien forte. Une manière de les éloigner du danger serait de leur dire « lâchez ce bâton, il est dangereux, vous pouvez vous faire mal ». Alors je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'on leur dit « n'y touchez pas », ça leur donne encore plus envie d'y toucher. J'aurais beau leur dire de lâcher le bâton, en fait, ils auront encore plus envie de jouer avec. Et ça s'est même produit un peu ce matin, lorsque mon fils n'arrêtait pas de s'agiter, de crier, et on lui disait « arrête de crier », et puis il crie encore plus fort. Alors avec Aude, on a trouvé une technique. Au lieu de leur demander de lâcher le bâton, on va leur donner envie de jouer à autre chose. Et là, ça marche mieux. On détourne leur attention en leur donnant, par exemple, un autre jouet. Et là, ils lâchent le bâton plus facilement pour prendre l'autre jouet. Et on leur explique ensuite, calmement, que le bâton était dangereux, qu'il faut bien regarder que les objets ne soient pas coupants ou pointus avant de jouer avec. Le diable ne veut pas nous éloigner des dangers, mais de Dieu. Et pour cela, il va nous proposer une tonne d'autres choses qui auront l'air plus attirantes. Son plan, c'est que nous abandonnions nous-mêmes Jésus, mais petit à petit, sans nous en rendre compte, sans qu'il ait à nous le demander. C'est à cause de cela que Jésus prie, afin que nous soyons gardés dans le nom de Dieu, auprès de Dieu, et que les manœuvres du malin ne nous atteignent pas. Et comment Jésus demande à Dieu de nous consacrer ? Verset 17, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Les publicités basent leur argumentation sur le confort et le plaisir. Achetez telle marque d'ordinateur et votre vie sera meilleure. Pour Jésus, ce qui va faire l'adhésion des disciples, ce qui va les rendre consacrés à Dieu, c'est la vérité, la parole de Dieu révélée dans la Bible. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, certains vont la rejeter, peut-être même la majorité, et d'autres vont y reconnaître la vérité. Nous n'avons pas à enrober l'Évangile avec des arguments publicitaires. C'est la vérité qui touchera les gens. C'est de la vérité que nous devons nous nourrir afin de rester consacrés, attachés à Dieu. Et ce n'est pas en comptant sur nos propres capacités que nous allons y arriver, mais en comptant sur l'aide de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus prie, car il s'en remet à Dieu. Il confie ses disciples à Dieu le Père. La deuxième chose que j'aimerais relever, ce qui va de pair avec la consécration, c'est la joie. Être consacré à Dieu par la vérité constitue la vraie joie. C'est ce que Jésus dit au verset 15. « Maintenant je m'en vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. » Une joie complète. Ce qui procure la joie aux disciples, c'est de savoir qu'ils sont auprès de Dieu et qu'ils sont dans la vérité. Jésus qualifie cette joie de joie complète par opposition aux joies éphémères que nous pouvons avoir durant notre vie terrestre. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas jouir de ce que Dieu nous offre ici-bas, mais ce n'est pas là que se trouve la vraie joie. La joie du disciple augmente au fur et à mesure que nous sommes proches de Dieu. C'est une joie qui surpasse les épreuves. N'oublions pas que Jésus prononce cette prière juste avant d'être trahi, juste avant d'être méprisé en public, torturé, crucifié sur la croix. Malgré ses souffrances, la joie d'être consacré à Dieu l'emporte. Jésus ose parler de joie complète dans une situation difficile et éprouvante. Puissions-nous aussi trouver cette joie dans l'attachement au Père. La troisième chose que je relève dans ce texte est liée aussi à la consécration, c'est que Jésus envoie ses disciples dans le monde, tout comme lui aussi a été envoyé. Jésus exprime cela au verset 18, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Jésus a été envoyé par le Père pour révéler la vérité sur Dieu, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Jésus a accepté cette mission, et c'est pour cela qu'il dit au verset 19, « Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Jésus se consacre lui-même dans le sens où il s'est approprié la mission du Père, que le Père lui a confiée, afin de faire connaître la vérité aux disciples. Et ensuite, à leur tour, ils seront consacrés à Dieu, puis envoyés. Dans la Bible, lorsque Dieu consacre quelqu'un, il le fait toujours en vue d'une mission. Une fois que les disciples sont attachés à Jésus et au Père, Jésus va les envoyer en leur donnant son Esprit, son Saint-Esprit. Et à deux reprises, dans notre texte, au verset 14 et 16, Jésus précise ceci, c'est mot à mot la même chose. « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Les disciples ne sont pas du monde, car ils appartiennent désormais au peuple de Dieu. Ils sont envoyés en tant que missionnaires dans le monde. Leur présence, leur témoignage, leur proclamation appellent d'autres personnes du monde à rejoindre le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, la communauté des disciples consacrés à Jésus. Jésus les envoie dans le monde sans cacher que cette mission est périlleuse. Jésus a été envoyé pour révéler la vérité. Et la vérité ne plaît pas à tout le monde. Jésus sera maltraité, détesté, mis à mort. C'est aussi le risque auquel s'expose tout disciple de Jésus. C'est mon quatrième point et dernier. Détesté dans le monde, comme Jésus. Voici ce que Jésus dit au verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » La consécration apporte une joie complète. Mais être envoyé dans le monde, c'est aussi être exposé au rejet. La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Parce que la vérité remet en question. La vérité bouscule. Elle demande de l'humilité. La vérité demande de l'humilité. Parfois, j'entends des gens critiquer les chrétiens. Ils disent que les chrétiens sont orgueilleux car ils disent avoir la vérité. Vous vous dites avoir la vérité, vous êtes orgueilleux. Tout d'abord, nous ne possédons pas la vérité. Nous la recevons. Celui qui possède la vérité, c'est Dieu. Et Dieu a choisi de la révéler au monde par Jésus et par ses disciples. Ensuite, je trouve qu'il faut faire preuve d'humilité pour recevoir la vérité qui vient de Dieu. Parce que les hommes ont tendance à se faire leur propre vérité. Chacun veut avoir sa vérité, car chacun veut avoir raison. Chacun veut se rassurer en créant une croyance qui confirme son mode de vie. Mais lorsque la vérité concernant Jésus est exposée, cela dérange. Alors il y a deux réactions. Soit on reconnaît que Jésus expose bien la vérité, et on la reconnaît avec humilité, ou alors on la rejette. Jésus a été rejeté par ses contemporains, et il a fini sur la croix. Il ne cache pas que la vie de disciple est difficile. Le sort que le monde a réservé à Jésus, c'est aussi le sort de beaucoup de disciples. Et aujourd'hui, si on regarde les chrétiens dans le monde entier, eh bien la majorité des chrétiens sont persécutés, et même persécutés physiquement, à cause de leur foi. Pour conclure, Jésus ne présente pas la foi chrétienne comme les publicités présentent leurs produits. Il ne met pas en avant le confort de vie, le plaisir éphémère, la facilité. Il met en avant, bien sûr, la joie, mais la joie malgré les épreuves. Et il met en avant la vérité. Être consacré à Dieu et être dans la vérité constitue déjà une grande joie. Et nous savons que cette joie sera parfaite lorsque nous serons auprès de Dieu. En attendant, restons attachés à Dieu, prions pour qu'il nous protège du malin et consacrons-nous à la mission qu'il nous confie. Soyons des témoins du Christ envoyé dans le monde. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous dis la vérité. Tu ne nous présentes pas la foi comme étant juste un produit publicitaire qui nous apporte un confort, des plaisirs, la facilité. Tu nous présentes la vérité. Ce n'est pas facile, tous les jours, d'être consacré à toi. Mais nous savons que que nous sommes dans la vérité et nous savons que notre joie est parfaite parce que nous sommes gardés auprès de toi. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Aide-nous à rester attachés à toi, à être conduits par ton esprit, ton Saint-Esprit, et à vivre en tant qu'envoyés dans ce monde. Et aide-nous à présenter la foi chrétienne, non pas comme une publicité, mais telle qu'elle est, en vérité. Que ton Église puisse vivre dans cette vérité et aussi dans la joie, dans l'unité, l'unité en ton Fils Jésus. Amen.